L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Signora Goliarda Sapienza, scrittrice, anche lei ha visto il carcere da un punto di vista di laurea di università, ha scritto l'università di Re Bibbia, risultato di una sua esperienza.
No, ma veramente dico, in questo contesto io mi sento un po' imbarazzata perché la mia è stata un'esperienza intanto breve.
Fortunata.
E poi mossa da un desiderio di testimonianza.
Dopo, immagino, non prima.
No, volevo andarci anche prima.
Ha sempre desiderato andare in carcere?
Sì, da molto tempo, sì, perché anche a casa mia si diceva che, come ha detto da allora, che il proprio paese si conosce conoscendo il carcere, l'ospedale e il manicomio.
E quindi?
E diceva però che purtroppo il carcere bisognava entrarci, bisognava andarci, sì.
Bisognava andarci?
A casa mia erano anarchici, bisognava...
Bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous épluchons l'œuvre de la grande Goliarda Sapienza.
Ce qui est pénible avec le H, c'est que ça s'entend pas du tout.
Bah si. Tu vois?
En haut de sa hutte, s'est hissé Henri. En haut de sa hutte, s'est hissé Henri. Que la lune est haute, se dit notre ami. Que la lune est haute, Henri est Henri.
Nathalie Castagnier, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
Oui, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Mais ça me fait plaisir.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que nous venons d'entendre en introduction de cette émission?
Ah oui, bien sûr. C'est Goliarda qui est interviewée à la télévision italienne après son incarcération voulue, comme elle l'explique, et qui a donc donné ensuite l'Università di Re Bibbia, l'Université de Re Bibbia, son livre sur la prison, puisque Re Bibbia, c'est comme nous dirions Fresnes, enfin quelque chose comme ça. Très c'est bien. La grande prison de Rome. Où elle a, en effet, elle a voulu y aller et elle explique pourquoi dans ce petit extrait. Enfin, à ce moment-là, elle dit, mais oui, depuis toujours, enfin, mon père disait, on ne connaît une société que si on connaît ses hôpitaux, ses asiles et ses prisons. Et elle dit, pour connaître les prisons, il faut y aller.
Tout à fait.
Et donc, elle y est allée.
Le pragmatisme fait sens à l'esprit. Enfin, là, pour le coup, l'esprit et la lettre, ça a été
se
pris
rejoignent.
Voilà, oui. Au pied de la lettre. Oui. Nathalie Castagnier, vous êtes donc spécialiste de l'autrice italienne que nous venons d'entendre, Goliarda Sapienza. Vous en êtes sa traductrice en français, depuis toujours?
Eh bien, depuis qu'on m'a donné d'abord à lire et ensuite à traduire l'art de la joie.
Alors, on s'amuse un petit peu dans cette émission à faire un tour, un grand tour, je ne sais pas jusqu'où ça va nous mener, des métiers du livre. Donc, vous, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la traduction? Comment on y arrive, ou du moins, comment vous en êtes arrivée à devenir traductrice?
Alors, je suis très mal placée pour ça.
C'est ça qui est merveilleux.
Parce que c'est un pur hasard.
Ben, c'est chouette.
C'est vraiment un hasard. Il se trouve que je connaissais l'italien. Pour être allée très souvent en Italie, j'ai été engagée comme lectrice, petite lectrice, chez De Noël. Mm-hmm. Et puis, on m'a donné quelque chose à traduire, un peu par test peut-être, je n'en sais rien, à vrai dire. Ensuite, un livre à co-traduire, un livre qui n'avait pas d'intérêt. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça. Et je suis devenue traductrice comme ça, sans aucune intention de le devenir au départ. J'écrivais et je faisais du chant. Et le reste, je ne dis pas que ça ne m'intéressait pas, mais enfin, c'était secondaire. Non, il y a beaucoup d'auteurs, notamment, pour qui la traduction est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, en fait, j'ai été prise dans ce mouvement-là. Et ça m'intéresse, bien sûr. Et puis, il y a des moments où ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Et ça a été souvent le cas avec Goliarda.
Alors, vous nous avez parlé d'un autre métier aussi, un métier qui existe toujours, donc lectrice pour des éditeurs. En quoi ça consiste ?
Pour moi, ça consistait tout bêtement à écrémer. C'est-à-dire, en fait, j'étais engagée normalement pour lire des livres italiens, mmh. donc déjà édités, bien sûr, et dire ce que j'en pensais, pour que les vrais lecteurs de la maison d'édition s'en occupent ou pas. Et puis, comme il n'y avait pas du tout assez de livres italiens, on m'a donné plein de manuscrits français.
D'accord.
Et voilà. Et c'était la même chose, c'est-à-dire que c'était de l'écrémage. Hein. C'était pas vraiment grand-chose d'autre, même si ça m'a permis de tomber sur certains livres très, très intéressants, mais sans résultat. Je crois, si, pour un, d'ailleurs, qu'a repris le Tripode, qui était le livre de Luce Desrameaux, Le Détour. Je l'ai beaucoup admiré et il a été en effet publié, je ne dis pas que ce soit à cause de moi, parce qu'encore une fois, j'étais là dans un premier temps, juste, mais il a été publié une première fois chez De Noël, si je me souviens bien.
Très bien. Alors, juste pour faire un petit point technique pour nos auditeurs.
Oui.
Donc, les éditions de Noël sont des éditions françaises et il arrive très souvent que les maisons d'édition françaises aient quand même des personnes, des éditeurs, des lecteurs qui soient spécialistes donc, d'autres pays et qui se renseignent sur ce qui se publie dans les autres pays afin ensuite d'acquérir les droits pour les textes, les traduire et les publier dans leur catalogue en tant que littérature étrangère. Je ne me trompe pas ?
Je n'en sais rien. À vrai dire, je ne connais absolument pas ce système. Je ne sais pas. Moi, j'ai fait
Grosso modo,
voilà, oui. J'ai fait ce qu'on me demandait. Et puis, en fait, ça ne m'importait pas énormément. Je ne suis pas entrée dans un système. Voilà. Et d'ailleurs, à tort, sans doute, mais je ne suis pas entrée dans un système éditorial. J'ai juste fait ces lectures et ensuite les traductions.
Et donc, Goliarda Sapienza, il a fallu... Ça a été une rencontre, mais une rencontre littéraire, textuelle, par les mots. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Ah, ça a été une rencontre extraordinaire, parce que... tout à fait à la fin 2003... qu'on m'a appelé, c'est-à-dire Frédéric Martin, qui allait devenir l'éditeur du Tripode et qui, à l'époque, était un collaborateur de Viviane Ami, m'a appelé, je suppose, de sa part, parce qu'elle me connaissait depuis un certain nombre d'années, et que j'avais fait 2 traductions pour elle et quelques notes de lecture. Donc, il m'a appelé pour me dire, est-ce que vous accepteriez de traduire un livre que... Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais je sais que ce livre... Je pense, lui, avait été donné par une éditrice allemande qui elle-même l'avait lu et apprécié, beaucoup, je pense même. Et le livre m'a été présenté ainsi. C'est un livre qui est très long, qui ne ressemble à rien d'autre, qui n'a eu absolument aucun succès dans son pays et qui a été écrit par une femme qui est déjà morte. Enfin,
qui venait de décéder il y a quelques années.
Oui. Et donc, autrement dit... tous les risques d'un succès.
Voilà, tout à fait.
Mais avait ajouté, je pense, l'éditrice, en s'adressant à Viviane, apparemment, ça pourrait vous intéresser. Bon, alors, il fallait le lire.
Donc ce texte est arrivé entre vos mains, sous forme de manuscrit ?
Non, pas du tout.
Non.
Ce texte avait été publié en Italie, mais sans aucun succès, dans une petite maison d'édition, Stampa Alternativa, donc une maison marginale, disons. Il m'est arrivé sous forme d'une sorte de livre de poche qui ressemblait vraiment à rien, sauf que quand je l'ai ouvert au début 2004, parce que j'avais d'autres choses à faire avant, et je n'étais pas spécialement pressée, enfin... Et là, ça a été un coup de foudre, vraiment. Enfin, dans la mesure où, dès les premiers mots, dès les premières phrases, j'ai complètement accroché, j'ai été complètement saisie. Et ça n'a fait qu'augmenter, j'allais dire, au fur et à mesure que je poursuivais les premières pages. Et j'étais vraiment... subjuguée, extraordinairement frappée par ce que je découvrais, d'autant plus que je savais que ce livre était passé inaperçu, n'avait pas eu de succès, c'était incroyable, et il était saisissant.
Et le titre de ce livre ?
Le titre du livre, alors moi j'ai des réserves sur le titre du livre, parce que je trouve que Je pense en fait que le titre du livre est, a plus à voir avec Goliarda elle-même qu'avec quoi que ce soit d'autre.
Je suis d'accord.
Voilà. Et bon, je suis un peu réservée sur le titre du livre qui pour moi ne correspond pas complètement à ce qui y est écrit. Voilà, bref, je lis ce livre en entier.
On va quand même le spécifier, il me semble qu'on ne l'a pas dit pour les auditeurs, il s'agit de L'art de la joie.
L'art de la joie, l'arte della gioia.
Oui, voilà. Pardon, donc de Goliarda Sapienza, oui. Édité aux éditions du Tripode, avec qui vous
maintenant
avez collaboré.
Édité aux éditions du Tripode, mais en voilà. 2005, édité aux éditions Viviane Ami.
C'est vrai.
Pour laquelle, donc, j'ai fait la note de lecture.
Ah,
et là,
oh là là.
Et là, j'ai dit, mais il faut absolument que ce livre soit connu, en gros. Enfin, ça voulait dire traduit, mais j'avais presque l'impression d'une publication, vu le peu de succès, l'ignorance dans laquelle tout le monde se trouvait à l'égard de Goliarda Sapienza à l'époque. Et en plus, comme j'ai lu la préface ou postface d'Angelo Pellegrino, son second compagnon, et qui a fait une magnifique préface ou postface, a écrit quelques pages vraiment très très belles, je savais aussi exactement l'histoire du livre. C'est-à-dire que je savais que ce livre d'une extrême importance pour Goliarda et auquel elle avait sacrifié beaucoup, avait été refusée partout. Mmh. Et que donc c'était pour elle une blessure terrible. Et pour moi, une injustice, je ne dirais pas incompréhensible, parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui rendent le refus compréhensible, mais en tout cas une injustice qu'il fallait absolument réparer si c'était possible. Donc j'envoie une note de lecture complètement enthousiaste et positive. Et tout de suite, Viviane ou la maison d'édition décide de publier. Et donc, je me suis mise à traduire quelques mois plus tard parce qu'il fallait... Enfin, j'avais probablement d'autres choses à faire. Et surtout, d'abord, il fallait qu'elle acquiert les droits, etc. Ces choses qui se passaient tout à fait en dehors de moi.
Le livre a été disponible pendant combien de temps aux éditions Viviane Ami? Alors déjà la date, est-ce que vous vous souvenez de la date de la première publication?
Septembre 2005.
Et
ça a été un succès public, ouais. Critique et public, ouais. Énorme.
Dans le monde de la littérature.
Ah, oui. Et ça a changé vraiment le destin de Goliarda. C'est incroyable. Parce qu'elle est passée de l'ombre à la lumière, oui. D'une certaine façon, à ce moment-là. Et ben, je pense que le livre a été disponible pratiquement jusqu'au moment où Frédéric Martin, devenu éditeur lui-même, l'a publié, c'est-à-dire en 2015.
Voilà.
Mais je sais que quand il l'a publié, il m'a dit... C'est fini. Enfin, il n'y a plus vraiment sur le marché l'édition, oui. de Viviane.
Il y avait, je n'en sais rien. Je n'ai pas vérifié, initiale.
Mais voilà ce qui m'a été dit en tout cas.
Oui, en tout cas, oui. C'est fréquent dans, voilà. Le monde de l'édition. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment, nous, en librairie, puisqu'on a ce regard-là sur les catalogues.
Voilà. Oui.
Et c'est vrai que maintenant, on le retrouve sous cette forme, donc avec une très belle couverture, avec une photo de son autrice.
Oui.
D'ailleurs, tous les livres, on en parlera dans la seconde partie de l'émission.
Oui. Tous les livres du Tripode,
oui.
Ont non seulement une photo de Goliarda en couverture, comme ça avait été le cas, hein, pour le premier, enfin les deux premiers, puisqu'il y a quand même eu deux livres publiés, c'est-à-dire trois,
chez
puisqu'il y en avait deux dans le second livre,
oui.
Publié chez Viviane Ami, il y avait des photos de Goliarda déjà, mais là, au Tripode, c'est plus complet, parce que ça a été le choix, non seulement de mettre le visage de Goliarda en couverture, mais en plus de mettre un cahier de photos dans chaque livre, en plus d'une chronologie, etc.
Donc voilà. une très belle collection d'ouvrages, oui. Une très belle bibliographie, enfin, pour les, oui. bibliophiles, on peut, ça fait vraiment plaisir à voir. Quoi.
Oui, c'est un très très bel ensemble, oui.
Avant de passer à notre petit instant musical, combien de livres a-t-elle écrit, Goliarda Sapienza?
Alors, il aurait fallu que je calcule avant de venir ici, parce que j'ai un peu oublié.
De mémoire, à peu près.
Une douzaine.
Ouais.
Quelque chose comme ça, je pense.
Donc,
oui, pas énormément.
L'art de la joie étant un roman.
L'art de la joie étant le seul vrai,
voilà.
Roman.
Oui, le reste,
et le reste, c'est plutôt de l'autobiographie.
C'est plutôt des récits d'expérience, du moins de la littérature tirée d'expérience.
Oui,
finalement.
Même si il y a aussi d'abord un livre de poèmes, par quoi elle a commencé, mais qui a mis du temps à être publié. Il y a aussi des nouvelles et il y a aussi Appuntamento a Positano, c'est à la fois autobiographique et pas tout à fait.
Ouais.
Donc c'est voilà. Okay. Mais en gros, En gros, ce sont... Et puis, il y a Les Carnets, qui est un livre qui n'aurait pas dû exister et qui,
on
pourtant, devient le dernier très grand livre de Goliarda, selon
Super.
Moi.
Alors, je vous propose d'écouter... Enfin, je vous propose... Non, notre invité vous propose d'écouter un extrait de La Casta Diva de Bellini, interprété par Maria Callas. Chanté dans cet extrait, tourne vers nous ton beau visage sans nuages et sans voile. Nathalie Castagnier, Goliarda Sapienza avait, pensez-vous, une fascination pour l'opéra dont nous venons d'entendre un.
Je ne le pense pas, elle le dit.
Elle,
elle raconte, il faut imaginer la petite Goliarda à l'opéra, à Catane, ville de Bellini. L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce morceau, pas la seule, parce qu'elle parle elle-même de Norma, l'opéra dont est tiré Casta Diva, donc qui en est l'air le plus célèbre, dans Lettre ouverte. Et donc, elle raconte qu'elle est à l'opéra de Catane et qu'elle entend cet opéra et qu'elle est tellement fascinée qu'elle elle va s'identifier à la prêtresse, à la gauloise. Enfin, c'est tout à fait étonnant. Et puis après, comme il y a un moment où Norma... En réalité, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle, avec son exigence de prêtresse. Simplement, elle n'aurait pas dû avoir d'enfant. Elle a un rapport interdit avec un Romain et elle est à deux doigts de faire ce que fait Médée, mais elle ne le fait pas. Voilà. Et Goliarda parle de ça dans Lettre ouverte et on sait que pour la protéger des incursions violente des fascistes dans la maison de ses parents, qui étaient des militants l'un et l'autre, on l'amenait, j'imagine, et on l'a laissé au théâtre ou à l'opéra. Donc c'est quelque chose qui a nourri son enfance. C'est pour ça que je trouve important de mettre un extrait d'opéra, parce qu'on met toujours des chansons en se disant oui, elle est de gauche, nanana, nanana. elle aimait certainement les chansons, et les chansons siciliennes, elle est très attachée à la Sicile, mais Elle parle quand même de l'opéra et en plus, on sait qu'elle a baigné là-dedans, circonstanciellement, mais pas seulement.
C'était protecteur comme
c'était
relation.
Protecteur.
C'était un foyer
oui,
pour elle,
oui,
presque.
Oui, exactement. Donc, ça me paraissait légitime de donner un extrait d'opéra à la place d'une chanson.
Mais tout à fait. Mais c'était magnifique à entendre. Ça m'a fait beaucoup de plaisir d'entendre cet extrait. Donc, nous entamions une petite discussion avant la pause autour des ouvrages, des détails des ouvrages de Goliarda Sapienza. Vous disiez donc son unique roman L'Art de la Joie et ensuite donc d'autres textes inspirés de ses expériences de vie, inspirés de la prison, inspirés de ses dépressions, inspirés de ses hospitalisations.
Alors en fait, c'est pas après, c'est d'abord.
Oui,
avant.
C'est d'abord. Oui, pardon.
C'est-à-dire qu'il y a deux livres autobiographiques et son projet initial, c'était ça.
Oui.
C'était ce qu'elle a appelé ensuite autobiographie des contradictions.
Oui. C'est parce que c'est... nous on connaît l'art de la joie en
France. Nous avons découvert l'art de la joie en France, mais vous en réalité, elle a d'abord écrit Lettre ouverte et Le fil de midi, c'est-à-dire en effet un retour parfois violent d'ailleurs sur son éducation, sur sa famille, sur son enfance, à la fois violent et aimant du reste, les deux. Et puis, Le fil de midi, qui est le récit de sa psychanalyse, après semi-tentative de suicide, elle dit qu'il n'y en avait pas eu, et surtout après des électrochocs. Et donc, une psychanalyse très peu orthodoxe, qui d'ailleurs elle-même va la conduire à une tentative de suicide. Enfin, quand le psychanalyste la lâche après lui avoir dit « Ah, vous êtes une abandonnique, je ne vous abandonnerai jamais », tout d'un coup, il lui dit « Maintenant, j'arrête ». Il faut dire qu'ils avaient eu des rapports... sexuelle, enfin, les choses avaient été très loin dans le peu d'orthodoxie, disons. Et lui-même devait être complètement perdu, mais il a fait quelque chose, enfin, il a fait beaucoup de choses inadmissibles, selon moi, avec elle, en tout cas. Et donc ça, c'était les deux premiers livres, où elle est quand même extraordinairement centrée sur elle-même, parce qu'elle a de gros problèmes à résoudre. Ce que les Français n'ont pas tellement, et les Françaises, qui avaient été les lectrices de l'art de la joie, n'ont pas tellement admis dans un premier temps. Je pense qu'il y a une gêne pour beaucoup de découvrir une Goliarda fragile, une Goliarda empêchée, alors que Modesta est triomphante et qu'elle est une force qui va... et puis quelqu'un qui prend toutes ses responsabilités sans quasiment la moindre défaillance.
Alors, pour nos auditeurs qui n'auraient pas lu encore L'art de la joie, Modesta est le personnage principal. Je crois que son prénom est très mal choisi, mais à propos, c'est
il
certainement...
Il est choisi par antinomie, certainement.
Par antinomie, exactement. Oui. Et c'est un personnage qui nous fait traverser l'Italie. Je crois qu'elle naît officiellement dans le livre en 1900. Et
symboliquement,
puis,
le 1er janvier 1900. Voilà, exactement. Et elle va jusque vers les années 60, à peu près.
Et c'est vraiment
une traversée extraordinaire.
Alors, il y a plusieurs romans dans ce roman, me semble-t-il. Il y a une partie enfance, une partie apprentissage, une partie ouverture à tout ce qui est relations, sexualité, psychologie, le corps, mais aussi les arts et la culture. C'est vraiment un roman monde.
Oui, absolument. Moi, et l'histoire, bien sûr. Et la politique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses.
C'est clair que c'est magnifique.
Donc, Modesta, en effet, on en reparlera peut-être, mais je passe à la suite, c'est-à-dire l'université de Rebibbia. Récit de son emprisonnement.
Tout à fait, dont nous entendions en début d'émission.
Et comme elle dit, elle y restait extrêmement peu en prison, mais on a l'impression, quand on lit l'université de Rebibbia, qu'elle y restait au moins 3 mois. Plusieurs mois. Donc l'université de Rebibbia est en fait ce qui suit.
Et alors finalement, elle n'est restée en prison que 3-4 jours, me semble-t-il, suite à un larcin qu'elle a voulu commettre parce qu'elle voulait aller en prison. Les policiers, donc elle a volé simplement une amie. Les policiers lui ont dit, c'est rien, clairement, elle n'avait pas le profil pour être enfermée,
elle a tout fait pour qu'il soit tellement exaspéré par ses dénégations qu'il l'expédie en prison.
Tout à fait, et elle en ressort, donc l'université de Rebibbia.
Et elle en ressort avec un livre très extraordinaire, qui est l'université de Rebibbia, que suit Les certitudes du doute, qui est son histoire, en fait, avec une autre prisonnière, enfin son histoire, une sorte d'histoire d'amour, mais sur laquelle on ne peut pas mettre vraiment, qu'on ne peut pas classifier, sur laquelle on ne peut pas mettre complètement un nom, avec Roberta, qui est une jeune prisonnière brigadiste, d'ailleurs, qu'elle a rencontrée en prison. Elles sont sorties toutes les deux de prison, donc c'est aussi un tableau d'une Rome complètement, enfin très inconnue, la Rome des insurgés de l'époque aussi. Voilà. Et donc là, en effet, comme elle le dit d'ailleurs dans l'extrait que vous avez fait passer, elle devient témoin. Autant dans ses premiers livres, avant L'art de la joie, elle est quand même très axée sur elle-même et elle essaie de démêler tout ce qu'il y a à démêler de son histoire, enfin de ses difficultés, etc. Autant une fois L'art de la joie écrit, que suit d'ailleurs Moi Jean Gabin, qui est un livre où elle revient sur son enfance, mais avec un regard tout à fait nouveau, parce qu'elle est dégagée de l'emprise familiale, donc beaucoup plus libre. Et aussi un livre plus fantaisiste, plus fictionnel que Lettre ouverte ou Le fil de midi, même si elle s'écarte à certains moments de la réalité, évidemment, de la réalité factuelle, j'entends, dans tous les livres. Mais après ça, ces deux livres, Rébibia et Les certitudes du doute, sont plus des livres de témoignage où elle parle plus des autres que d'elle-même. Il y a un basculement là. Mmh. Et puis vient ce livre un peu à part qu'est Rendez-vous à Positano. Et enfin, elle l'a commencé avant en réalité, mais ce qui a paru plus tard, parce que comme je disais, ça ne devait pas être un livre, ses carnets, c'est-à-dire une part de ce qu'elle a écrit pour elle-même, en fait, mm-hmm. des carnets donnés par Angelo Pellegrino pour lui permettre de se remettre à écrire après L'art de la joie, parce qu'un effort pareil laisse des traces, mm-hmm. et qui est devenu, et qu'elle a poursuivi sans doute jusqu'à la fin de sa vie, je dis sans doute parce qu'en réalité, ça s'arrête un tout petit peu avant dans ce qui est publié, enfin deux, quand je dis un tout petit peu, bien 2 ans avant. Je crois, même peut-être un peu plus, 2-3 ans. Et voilà. Ces carnets deviennent en réalité sa dernière grande œuvre, alors qu'elle voulait écrire sur sa mère ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Enfin, elle n'a jamais réussi à faire plus que quelques chapitres.
Très bien. Alors, nous encourageons bien sûr tous les auditeurs à découvrir Goliarda Sapienza. Vous pouvez commencer par L'art de la joie ou par un autre de ses ouvrages. Ça, pour le coup, tout dépendra de la rencontre que vous ferez, la rencontre littéraire. Mais nous allons aussi, pour terminer cette émission, parler de votre livre « Vie, mort et renaissance » de Goliarda Sapienza. C'est paru étonnamment aux éditions du Seuil.
Oui.
C'est une biographie donc, dans laquelle nous allons suivre Goliarda sur toute la période de sa vie, tant par sa vie personnelle, mais aussi que par ses écrits, ses correspondances, le regard de ses amis, de son ancien compagnon aussi un petit peu, et pas mal d'iconographie, de très très belles photos. Est-ce que vous pouvez, en 2 minutes, nous présenter cette biographie, s'il vous plaît, et son histoire ?
Son histoire. Son histoire, c'est l'histoire de quelque chose qu'on m'a proposé de faire alors que je n'en avais aucune intention.
Là aussi.
Et surtout aucune envie.
Ah oui, en plus.
J'étais en train de travailler pour moi. J'avais pas du tout. Et puis, une biographie, je n'ai jamais écrit ça. Enfin, pour moi, c'était compliqué. Et d'ailleurs, j'ai attendu pour m'y mettre. J'ai attendu parce que je n'y arrivais pas. Enfin, je n'arrivais pas à me dire, bon, maintenant, je laisse ce qui est mon monde. Pour celui de Goliarda, c'était pas simple. Et donc, j'ai beaucoup tergiversé. Et puis, je m'y suis mise et je me suis prise au jeu à partir d'un certain moment. Je m'y suis mise aussi après avoir fait quelques lectures. Parce que malgré tout... Alors, je peux dire tout de suite, c'est que mon rapport à Goliarda, c'était, comme vous l'avez dit, un rapport à travers ses livres. Et donc, c'est d'abord à travers ses livres que je travaille sur sa vie.
Parce que vous ne l'avez pas rencontré.
Je ne l'ai jamais rencontré. Voilà. Sauf que j'ai aussi découvert qu'il y avait des écarts entre ce qu'elle écrit dans ses livres et, disons, la réalité factuelle à certains moments, ce qui m'a déroutée dans un premier temps et ensuite extrêmement intéressée. Donc je suis partie de ces deux choses en ayant lu d'ailleurs pas énormément de choses sur elle. Bon, je connais très bien Angelo Pellegrino, donc j'ai parlé un peu avec lui, mais pas tant que ça en réalité. Et puis j'avais l'idée au départ, je me suis dit, je vais aller essayer d'interroger des personnes qui l'ont rencontré. De toute façon, les 3/4 sont morts. Et puis ça aurait été trop long. Mmh. Et puis ça n'avait pas de sens. Donc le rapport direct, le plus direct, c'était celui à travers ces livres. Il y a pas mal de citations,
Vu. Énormément de citations.
Mais il n'y a pas que ça. Et il y a des analyses. Bon, je cherchais l'être de Goliarda aussi à travers ce qu'elle a écrit. Et puis Oui, la personne qu'elle était à travers ce qu'elle a écrit et à travers ce qu'elle a vécu.
Pardon, je suis désolée, on est obligé de s'arrêter j'imagine. Là. Pour oui. ceux qui veulent en savoir plus, car il est possible d'en savoir plus prochainement, donc rendez-vous à la librairie Les Pluches Libres. Pardon. Donc c'est l'arrêt La Galine, tram 2, le 30 novembre, samedi 30 novembre, à la librairie, à 17h. Nous pourrons discuter, enfin nous discuterons encore ensemble de Goliarda et de votre biographie. Oui. Les auditeurs pourront vous rencontrer et échanger avec vous à la librairie.
Merci.
Merci à tous, à très bientôt.
L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette? Pas grand-chose.
Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde.